Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons parler de l'arche de Noé. Il y a beaucoup de richesses à recevoir de la question de l'histoire de l'arche de Noé. Et nous n'allons faire que dire certaines choses concernant cela. Normalement, il nous faut quelques séances d'études bibliques. Mais comme il y a un message spirituel important, nous avons voulu quand même le partager avec tout le monde aujourd'hui. Et nous lisons dans Genèse au chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit : Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois. Arche, ça veut dire coffre. Une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Et il est écrit au verset 7, au verset 6, Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se met sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair, ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux. Tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le septième mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 4 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe mais ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Dieu bénit Noé, ses fils, et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Voilà l'histoire de Noé, qui est une histoire capitale pour les chrétiens. Vous savez pourquoi? Une des règles pour comprendre des choses très très importantes de la Bible, c'est que les choses importantes sont répétées dans plusieurs livres. Et l'histoire de Noé est dans Genèse. Jésus lui-même en parle dans Matthieu au chapitre 24, dans Luc au chapitre 17. Et l'apôtre Pierre aussi parle de l'histoire de Noé. Quand vous retrouvez un passage qui est sans cesse répété comme ça, c'est qu'il y a un message pour tout le peuple de Dieu. Premièrement, je veux dire aux sceptiques, aux scientifiques, que l'histoire de Noé, ce n'est pas une légende, c'est quelque chose de vrai. On n'a pas le temps pour débattre scientifiquement, mais la Bible est catégorique. Il a dit toute espèce devait entrer là-bas. Il y en a qui peuvent se demander comment les éléphants sont entrés ainsi de suite. L'histoire de Noé est à la fois une histoire humaine, mais une histoire qui manifeste la puissance de Dieu. Donc Dieu est tout puissant, a été manifestement puissant pour faire ce qu'il a fait avec Noé. Et nous voyons la part humaine quand Dieu dit à Noé de construire. Mais nous voyons la part de Dieu quand Dieu fait venir les animaux. Il n'a pas demandé à Noé d'aller chercher les animaux, mais il a fait venir les animaux. Nous voyons la part de Dieu quand Dieu ferme la porte de l'arche. Donc c'est une histoire à comprendre doublement. Donc on ne va pas rester que sur le domaine humain selon nos connaissances, mais selon la puissance de Dieu. Et Jésus, le Fils de Dieu, quand il est venu sur terre, il a démontré la puissance de Dieu, il a démontré les capacités de Dieu en multipliant 5 pains pour nourrir 5000 personnes, en disant à la tempête, « Silence, tais-toi !» Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et il a montré que ce qui était écrit dans l'Ancien Testament par rapport au miracle du Seigneur, c'était possible parce que Jésus lui-même a démontré cela lors de la création. Alors, pourquoi l'histoire de Noé revient autant? Jésus en parle et l'apôtre Pierre en parle parce que c'est capital pour nous. Et un petit exemple encore pour nous aider à comprendre que c'est vraiment quelque chose de vrai, parce que dans notre idée, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Puisque la terre allait être submergée d'eau, c'est la terre, les oiseaux, eux, pouvaient continuer à voler. Donc, pourquoi Dieu a demandé aussi à ce que les oiseaux entrent dans l'arche? Mais quand on lit, on se rend compte que la terre jusqu'au sommet des montagnes a été submergée d'eau. Les oiseaux n'ont pas la capacité de dépasser le mont Everest. Ils restent à une certaine altitude. Vous allez voir que quand vous êtes dans l'avion, vous ne voyez pas des oiseaux à 10 000 mètres. Hein. Les oiseaux, c'est vraiment dans les 2 000 mètres, 1 000 mètres. Et quand on monte, les oiseaux ne peuvent pas monter au-dessus. Or, la Bible nous dit que les eaux ont dépassé même les montagnes. Donc, les oiseaux ne pouvaient pas atteindre ces hauteurs-là. Donc, il fallait que les oiseaux aussi entrent dans l'arche. C'est un exemple et vous rendez compte que en lisant, à chaque fois, il a été dit toute espèce. Dieu n'a pas voulu qu'il y ait un doute dans notre tête, comme quoi on a mal lu. C'est redit plusieurs fois que toute espèce est entrée là-bas. Donc ce n'est pas une histoire qui a été écrite par des gens ça a été écrit plutôt par des gens qui n'avaient pas notre science d'aujourd'hui, mais lorsqu'on vérifie avec notre science d'aujourd'hui, on voit que ce qu'ils disent était possible. Et je lisais un livret de quelqu'un qui démontrait cela scientifiquement, que cette construction-là était possible. Et lorsque on se rend compte que l'arche a mis 100 ans à être construite, donc il a fallu 100 ans, donc on le sait comment, on le sait que c'est 100 ans. Dans Genèse 11, 10, on dit que le fils de Noé avait 102 ans quand il, donc, après le déluge. Plutôt 2 ans après le déluge, il avait 102 ans. Donc on a compris qu'il est né à l'an 500, au moment où Dieu a dit à Noé de construire l'arche. Donc l'arche, sa construction a pris 100 ans. Ce qui est vraisemblable lorsqu'on peut penser que le temple de Jérusalem, pour être construit, il a fallu 46 ans pour construire le temple de Jérusalem à l'époque romaine, avec tous les moyens des Romains. Donc Noé, qui était plus vieux que cette époque, pouvait mettre 100 ans pour construire l'arche. Donc lorsque nous examinons la partie humaine de l'histoire de Noé, scientifiquement, on n'a pas besoin de la science, je le cite que pour aider certains, mais nous n'avons pas besoin de la science pour croire à la parole, ce que Dieu dit est vrai. Mais pour soulager quelques raisonneurs, lorsqu'on examine la partie humaine de l'histoire de Noé, on se rend compte que ça tient. Et les spécialistes de la navigation, des sciences navales, reconnaissent que les dimensions qui sont décrites là, 137 mètres de long environ, et puis il y avait combien de coudées, 37 environ de largeur, et puis 23 de hauteur ou l'inverse, ils expliquent que c'est les dimensions idéales pour qu'un bateau ne chavire jamais. Même si l'arche de Noé n'était pas un bateau. C'était plus un coffre, plus un cercueil qu'un bateau. Puisque quand on réduit les dimensions de l'arche, c'est en quelque sorte les dimensions d'un cercueil. Donc l'arche était comme une sorte de mort. Vous vous souvenez que Dieu a dit qu'il fallait que tout soit éliminé. Mais dans cette élimination, il y avait une partie de personnes, une partie d'animaux qui devaient être sauvés. Mais en passant par la mort aussi eux-mêmes. Bien-aimés, vous vous imaginez 14 mois dans l'arche avec une fenêtre, avec tous les animaux. Vous imaginez la vie était, comment elle devait être difficile. C'était la mort. Et cette mort-là est symbolisée par le baptême que nous avons en Jésus-Christ. C'est écrit ceci dans 1 Pierre 3 au chapitre 18. Pierre nous explique l'histoire de Noé. Il dit, c'est l'histoire de Jésus. Jésus qui est la vérité, le véritable sauveur. Il nous a pris comme une sorte d'arche en lui. Et il est écrit dans 1 Pierre 3 à partir du verset 18. Donc c'est la première explication, l'explication la plus, comment dire, biblique, directement biblique, du symbole de l'arche de Noé. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Nous lisons Romains 6, 4. Pour compléter notre explication, Romains 6, 4. Il est écrit ceci. Nous avons donc été enterrés avec lui, ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc lorsque Christ était en train de mourir, Dieu nous avait mis dans Christ pour qu'on meure ensemble. C'est pourquoi on appelle Jésus le dernier Adam. Donc il a tué tous les hommes avec lui. Quand il mourait, les hommes mouraient avec lui, tous, que ce soit ceux qui allaient venir après lui, que ce soit ceux qui étaient avant lui, que ce soit ceux qui étaient présents quand lui il existait en homme sur terre. Tous nous sommes morts en Christ. Donc nous sommes passés par l'arche qui s'appelle Jésus. Nous sommes entrés dedans et nous sommes comme, quand lui mourait, nous qui sommes sauvés, nous mourions avec lui. Et quand il est ressorti par la résurrection, nous ressuscitions avec lui. C'est pourquoi, bien-aimé, le salut, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit, quelqu'un qui est dans sa main, personne ne peut l'arracher. C'est-à-dire qu'il est passé par la mort avec Jésus. Et il est revenu à la vie avec Jésus. Donc pendant que Jésus faisait ça, même si on n'était pas encore né, on était déjà dans lui. Donc on a payé avec lui. On a subi la condamnation avec lui. Et c'est pourquoi on se fait baptiser. Donc le baptême, c'est ce symbole-là de mort et de résurrection. Et l'apôtre Pierre dit, c'est la même chose qui s'est passée avec Noé. Noé était mort en quelque sorte dans l'arche. Mais il y a eu un temps où il est revenu à la vie. Et comme je vous l'ai dit, si vous réduisez d'une manière proportionnelle les formes de l'arche, vous allez vous rendre compte que c'est une forme de cercueil en quelque sorte, en grand. C'était un coffre. On n'a pas dit un bateau, on a dit une arche, c'est un coffre. C'était une sorte de coffre et qui symbolisait la mort de l'humanité. Que Christ a accompli. Christ est mort, a crucifié l'humanité avec lui, de sorte qu'en ressuscitant, il crée l'homme nouveau que nous sommes étant enfants de Dieu. Et c'est ce que Pierre nous explique, et Romains 6, 4 complète cela. Christ est notre arche. Lorsque nous venons à Jésus, donc nous subissons la mort, et c'est pourquoi on se fait baptiser, et la résurrection. C'est ce qui s'est passé. Et bien aimé, de la même manière qu'il a fallu 100 ans pour construire l'arche, il a fallu beaucoup de temps à Dieu pour faire descendre son fils Jésus. Il a fallu plus de 4000 ans. Le Seigneur a annoncé dès la création que viendra, de la chute d'Adam, il a annoncé dans Genèse 3:15 qu'il viendra celui qui écrasera la tête du serpent. Le Seigneur a commencé à parler aux gens par ce qu'on appelle les théophanies, c'est-à-dire des apparitions de Dieu. Abraham, ils ont eu des apparitions de Dieu. Et ensuite, par des visions, on a vu Jacob qui a eu des visions de Dieu, visions, songes. Ensuite, il a commencé à parler par les miracles et les prophètes. Et il est écrit dans Hébreu, finalement, il a fini par nous parler par son fils. Il y a eu une préparation. Tout un peuple a été mis à part pour que sorte le Messie qui allait sauver l'humanité. Donc l'histoire de Noé n'était que l'image de ce que Jésus-Christ lui-même il allait accomplir pour toute l'humanité. C'est pourquoi l'histoire de Noé est très très importante. Quand on la lit, on doit se rappeler ce qui est arrivé pour nous-mêmes, les souffrances de Christ. Et ça, c'était la première étape, la préparation. Ensuite, quand Christ est venu, il a annoncé, comme Noé a annoncé aux gens, venez pour être sauvés. Il y en a qui n'ont pas saisi. Christ a pris maintenant sur lui toutes nos souffrances, toutes nos malédictions et tous nos péchés. Et nous connaissons comment ont été ces souffrances. Alors, quel est l'enseignement qu'on peut tirer? C'est que de la même manière que 100 ans, 14 mois pour Noé, ça a été très dur, bien-aimé. Souvenez-vous qu'il n'y avait qu'une seule fenêtre dans un si grand édifice. 137 mètres de long, 37 de largeur à peu près, ou de hauteur et 27 de largeur, et bien 23 de largeur, mais il n'y avait qu'une seule fenêtre. Donc comment devait être la vie là-bas? 14 mois. Aujourd'hui, nous, on a des conditions avec des toilettes, tout est bien arrangé. Vous imaginez avec les animaux. Comment manger pendant 14 mois avec toute la création dedans? Il a fallu combien de stocks? Donc, de nourriture. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment une sérieuse préparation. Et Dieu, pareil, a fait une sérieuse préparation avant d'envoyer Jésus-Christ. Des prophètes sont morts. Il y a eu des hommes éminents comme David qui préparaient la venue de Jésus. Des gens comme Moïse. Il y a eu un travail de plus de 2000 ans, 3000 ans. Et ensuite, le Seigneur est venu. Et quand le Seigneur est venu, il a connu la souffrance pour nous. La souffrance des 14 mois dans l'arche. Le Seigneur l'a connu. Beaucoup de gens pensent que le Seigneur a souffert seulement quand on le crucifiait. Non, le Seigneur a souffert toute sa vie. Pendant les 33 ans, c'était toute une vie de souffrance. Dans Ésaïe 53, on l'appelle l'homme de douleur. Vous imaginez l'homme parfait, l'homme juste, qui vit chaque jour et regarde l'injustice. Deuxièmement, cet homme-là avait la capacité à chaque fois de rendre justice, de détruire, mais il ne devait pas le faire parce qu'il était venu juste pour donner sa vie. Vous imaginez, bien-aimé, moi, lorsque j'entends, comme j'ai appris qu'il y a un enfant de 15 ans qui a tué une fille en la frappant comme si c'était un collègue boxeur, c'est des choses qui donnent envie d'aller chercher cet enfant de 15 ans, de lui tirer bien les oreilles, bien-aimé. Si nous avons ces envies-là de justice, de vengeance, parce que le mal est en train de faire souffrir les gens, le Seigneur était encore plus juste que nous, plus pur que nous. Donc quand il voyait le mal, quand il voyait l'injustice, quand il voyait le péché, il était plus blessé que nous encore. Mais la différence entre nous et lui, c'est que lui, il avait la capacité de changer sur place les choses. Il pouvait prendre un soldat qui frappait quelqu'un, le frapper tout de suite avec sa puissance, mais il n'a pas fait. Nous, aujourd'hui, si quelque part nous obéissons à la parole, c'est que Dieu aussi ne nous a pas donné une très grande puissance. Parce que je me pose la question, si Dieu nous avait donné la puissance de Jésus, est-ce que nous, on se tiendrait calme en apprenant toutes ces nouvelles qu'un tel a violé un enfant de 5 ans? Je ne pense pas que moi, bien-aimé, je tiendrais. Donc, je me sentirais obligé d'aller chercher cette personne-là et de lui régler son compte. Mais Jésus-Christ, dans son amour et dans son obéissance à Dieu, il est resté calme. Il ne devait pas agir avant le temps. Il savait qu'il y a un temps où l'humanité sera jugée pour tout ça. Il a été patient. C'était l'homme selon Dieu. Quelle souffrance, bien-aimé! Il y a des moments, moi je demande d'aller au ciel. Le jour où j'ai entendu encore cette affaire-là de cet enfant de 15 ans qui a frappé cette fille-là qui est morte, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué d'entendre la souffrance. J'étais outré. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué, la terre est trop mauvaise. Je veux que tout cela s'arrête. Et la Bible nous dit dans Apocalypse, même les saints qui sont au ciel, qui ne vivent pas notre souffrance, mais qui l'observent, c'est eux qui crient à Dieu jour et nuit, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas venger le sang des martyrs, le sang des saints? Bien, mais ce n'est pas facile de voir l'injustice et de supporter. Ce n'est pas facile de voir des gens persécutés, souffrant. Et Jésus-Christ était là à vivre tout ça. Ce n'est pas facile de voir les gens se moquer de Dieu. Ce n'est pas facile. Quand on sait que c'est Dieu qui a tout créé, on voit un homme simple qui est comme un grain de sable dans l'univers, qui fait des gros raisonnements pour montrer que Dieu n'existe pas. Bien-aimé, ce n'est pas facile. J'ai lu même l'histoire d'un jeune homme qui a été embauché dans une entreprise et son chef d'équipe, qui était quelqu'un d'assez âgé et avec une forte personnalité, ne cessait de jurer et de blasphémer contre Dieu en disant des mots, de gros mots sur Dieu. Ce jeune homme-là, qui a craigné cet homme-là, n'a pas pu supporter. Un jour, il est parti voir son patron, son chef. Il a dit, « Chef, vous me blessez énormément chaque jour et je ne peux plus supporter ça. » Il dit, « Bon, qu'est-ce que je te fais ?» Il dit, « Vous parlez tout le temps mal de mon maître. » « Ah bon, qui est ton maître ?»« Mais mon maître, c'est Jésus. » C'est le Fils de Dieu. Et chaque jour, vous sortez des mots blessants, des mots blasphématoires à propos de... Je ne peux plus supporter cela. Et à partir de ce jour-là, cet homme n'a plus sorti ses mots et il est parti chercher l'évangile pour en savoir plus sur Jésus. Parce qu'il a vu que ce petit-là, lui, il inspirait la crainte à tout le monde, mais ce petit-là l'a affronté parce qu'il ne supportait plus que son maître. Vous savez, il y a des gens qui se prennent eux-mêmes pour des grands chefs au travail. Mais quand ils se rendent compte que toi, tu es un maître supérieur à lui, ben, il va chercher, mais qui est ce maître-là qui fasse que ce petit ait le courage de venir me voir pour me dire d'arrêter de jurer comme ça et de blasphémer sur Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour Jésus de vivre sur la terre. Vous vous souvenez, il y a un épisode même, il a dit, race incrédule, combien de temps supporterai-je de rester encore au milieu de vous? Il a dit, ce n'était pas facile de voir des gens manquer de foi en Dieu. Ce n'était pas facile. Bien, mais ce n'est pas facile. Hein? Quand toi, tu te sens bien, tu as la foi, tu entends côté de toi des discours, des manques de foi. Je peux vous dire que moi, c'est comme si on me donnait un coup. Et parfois, je quitte cet endroit-là. Parce que quand les gens parlent sans la foi, c'est comme s'ils voulaient dire que Dieu n'existe pas. Et c'est des choses parfois qui blessent aussi. Et Jésus vivait ça tout le temps. C'était les 14 mois dans l'arche. 14 mois dans l'arche, sans la lumière du jour. Une seule fenêtre. Bien-aimé, quelle souffrance. Les odeurs. Nourrir toute cette population-là. Garder la foi que le lion ne va pas devenir subitement méchant. Gardez la foi que le serpent ne va pas commencer à mordre. 14 mois, bien-aimé. On a souvent lu cette histoire-là rapidement, parce que dans notre tête, on s'est dit, c'est peut-être un conte, c'est faux. C'est la réalité que Noé a vécue. Il fallait que Dieu a préparé notre compréhension de Jésus-Christ. Parce que beaucoup... Quand on parle des souffrances de Jésus, ils considèrent, bon, on l'a injurié, mais bien aimé. Jésus, quand il a commencé son ministère, pratiquement chaque jour, il devait faire face aux pharisiens qui cherchaient à le piéger. Chaque jour, comme un frère m'a dit, mais pasteur, c'est comme si tu vis, les gens, ils attendent que tu fasses une erreur, quoi. Moi, j'ai dit, voilà. Donc, c'est là, c'est déjà, nous qui sommes des petits pasteurs, on est entouré de beaucoup de gens dans la ville, dans le pays, qui attendent seulement que tu fasses une erreur et qui cherchent à te piéger d'une manière ou d'une autre. Et Jésus, c'était chaque jour, chaque jour, chaque jour, faire face aux pharisiens, un piège. On vient, mais Jésus, nous, on ne veut pas payer l'impôt. Qu'est-ce que tu en penses? Après tout, c'est Dieu notre chef, non? Jésus dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ah, les gens retournent. Ils reviennent encore. Oui, il y a un homme qui est mort, qui a laissé sa femme. Son frère a pris la femme. Et l'autre meurt, le troisième frère prend. Jusqu'à 7, le jour de la résurrection. À qui reviendra cette femme-là? Ben, le jour de la résurrection, on ne sera plus dans le mariage, on sera comme des anges. Ah, ils rentrent, ils partent. Ils reviennent encore un autre jour. Qui t'a donné cette autorité pour chasser les démons? Tu es un démon, toi-même. Bien-aimé, Jésus a vécu ça. Toute sa vie, 14 mois dans l'arche, ce n'était pas donné. C'était la mort, hein? Vous êtes 14 mois dans le noir. Mais en même temps, Jésus, quand il vivait tout ça, et quand il a été crucifié, il nous a délivrés. Donc l'arche, c'est aussi la délivrance. Il nous a mis en sécurité. Même si cette sécurité est une attente pour la délivrance finale, Jésus-Christ nous a mis en sécurité dans l'arche pour la délivrance finale qui est le jour de la résurrection. Mais individuellement, il nous a créés de nouveau. Donc, nous sommes encore dans l'étape de l'explication individuelle que nous donne Pierre. Chacun de nous est mort avec Christ et ressuscité avec lui. Christ ayant souffert à notre place, la longueur des 14 mois dans l'arche, ayant souffert à notre place les souffrances des gens qui étaient dans l'arche, l'obscurité, les ténèbres, parce que c'était les ténèbres, une seule fenêtre pour un si grand bâtiment naval. Donc c'était les ténèbres. Et il est écrit que Christ est descendu dans les ténèbres. Dans 1 Pierre 3,18, il est descendu dans les enfers, il est descendu dans les ténèbres. Et 14 mois dans l'arche, c'était 14 mois de ténèbres. Et Christ a vécu cela. Tout ça pour toi et moi. Et quand on pense à ça, on ne peut que l'aimer et lui confier notre vie. Et en ressuscitant, c'est-à-dire à la fin de ses souffrances, il est ressuscité. Et nous, nous pouvons individuellement avoir la nouvelle naissance et la vie éternelle. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle de savoir que nous avons été placés dans l'arche qu'est Jésus, et à sa mort et à sa résurrection, nous sommes maintenant des créatures nouvelles. Mais l'image de l'arche ne finit pas là. L'arche peut être comparée aussi au corps du Christ. Lorsque Jésus nous a sauvés, il nous a délivrés et il nous a mis dans l'église. Et nous sommes en quelque sorte, depuis que les apôtres ont commencé, nous sommes en train de vivre les 14 mois de l'arche. Nous sommes délivrés, c'est vrai, du monde, comme les gens qui étaient dans l'arche étaient délivrés des eaux, mais nous sommes quand même dans des conditions de vie difficiles. Depuis que les apôtres ont commencé, l'Église est dans un monde qui lui est étranger, dans des conditions difficiles. Souvenez-vous des martyrs des apôtres, des souffrances des premiers chrétiens, les enfants tués, les parents emprisonnés. Les chrétiens ont toujours souffert depuis que l'Église a commencé, parce qu'ils sont étrangers dans le monde. Ils sont en train de faire des choses que les autres trouvent exagéré, trouve anormal parce que les autres ne croient pas en Dieu. Le chrétien est dans la vérité et dans la lumière, et dans sa lumière, il gêne le voisin, puisque le chrétien peut dire clairement que l'homosexualité, c'est un mal, c'est un péché, et alors que tout le monde considère cela comme normal. Et ça lui attire des problèmes, le chrétien, alors que tout le monde dort le dimanche. Le chrétien se réveille à 7 heures du matin avec tous ses enfants pour aller prier. Et ça gêne tous ceux qui sont là dans les cafés en se disant, mais pour qui il se prend ? Ils se prennent. Et le chrétien, lorsqu'il faut corrompre, lui, il refuse de corrompre. Et ça gêne les autres. Le chrétien doit répondre au mal par le bien. On le tape, il doit aimer toujours. On le critique, il doit aimer toujours. Je disais à quelqu'un, bien-aimé, nous ne sommes pas convertis pour faire une église, ni pour faire un groupe. On s'est convertis pour épouser la nature de Christ. Je vois mal quelqu'un, des gens faire un groupe, faire une église, en critiquant les autres, en attaquant d'autres personnes. On s'est convertis pour l'amour. Donc, notre désir doit être celui de Dieu de sauver toute l'humanité. Donc, même celui qui t'injurie. Parce que quand Christ était à la croix, il disait, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il parlait des gens qui lui faisaient du mal. Donc, je comprends mal des gens qui peuvent dire, on va faire quelque chose, mais tout en construisant, en attaquant d'autres personnes. Non, on est là pour souhaiter le bien de tout le monde. Même du plus grand méchant. Nous devons souhaiter le bien, même des grands dictateurs. Le bien de Sarkozy, le bien d'Obama, même si c'est des dictateurs déguisés. On doit toujours souhaiter qu'ils se convertissent. Nous ne sommes pas convertis seulement pour la justice, nous nous sommes convertis aussi pour l'amour. Et l'amour aime à tout moment. Nous devons souhaiter le bien de tout le monde. Même ceux qui nous critiquent, même ceux qui nous font du mal, la nature de Christ nous pousse à les aimer. C'est pour cela qu'on s'est converti, pour être comme Jésus. Mais ce n'est pas facile. Nous nous souvenons du psaume 73. Ce n'est pas facile d'avoir l'impression que les méchants s'en sortent tout le temps. Et nous, qui voulons la justice, qui marchons dans la justice, nous subissons des déboires. Mais c'est les 14 mois dans l'arche. Depuis que l'Église a commencé jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens sont dans l'arche. Nous souffrons, mais nous sommes délivrés. Nous sommes quand même en dehors des eaux. Nous sommes hors atteinte de la pluie, du déluge. Nous sommes quand même hors atteinte. Bien-aimé, vous savez, le simple fait que toi, tu manges tranquillement, tu passes devant, tu es dans Carrefour. Vous savez, le rayon des liqueurs, c'est le plus beau rayon. Hein. Avec des bouteilles. Vous savez, il y en a même qui ne boivent pas trop, mais ils achètent ces bouteilles-là pour décorer leur maison. Parce que c'est des belles bouteilles. Hein. J'aurais bien aimé qu'on mette le jus d'orange et le jus de banane dans ces bouteilles-là. Mais ils ont choisi de mettre des produits dangereux dans ces bouteilles-là. Et toi, tu passes, tu ne te rends même pas compte. Et tu vas dans le rayon banane, tu vas dans le rayon yaourt. Mais il y a des gens, quand ils passent dans ce rayon-là, ils tremblent. Il lui faut prendre 2 ou 3 bouteilles. Et dès le matin, ils ont le verre de whisky. Mais tu ne te rends pas compte de quoi tu es délivré. Bien-aimé, vous pensez que le prix d'une bouteille de liqueur-là. Et ça, c'est 1. 2. L'effet que ça fait dans ton corps. 3. Le fait de se sentir esclave de quelque chose de ce genre-là. Esclave d'un produit qui te tue. J'ai vu un jour à la télévision, on interviewait un vendeur dans un bureau de tabac. Je voyais tous ces paquets derrière lui où c'était écrit fumez-tu, 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 fumez-tu. Je me suis dit, mais les gens ne voient pas ça. Toi, tu peux voir ça. Mais il y en a qui ne voient pas ça, tellement ils sont esclaves. Ils entrent malgré 100 écrits grands, parce que c'est mis en grand sur les paquets. Fumez-tu ? Mais lui ne voit pas ça. Rien qu'être délivré de ça, bien-aimé, c'est beaucoup. Nous souffrons en tant que chrétiens, mais nous sommes en même temps délivrés. Nous sommes hors de l'eau. Il y en a qui sont dans l'eau. Qui sont en train de haïr les autres. Vous savez, la vie de quelqu'un qui a la haine, c'est une vie difficile. Parce que dès qu'il voit la personne qu'il déteste, il n'est plus bien. C'est une vie difficile. Et imaginez que cette personne qu'il déteste réussisse quelque chose. Lui, il est malheureux. Il y a des gens qui n'ont pas une Mercedes, ils sont tranquilles. Dès que son voisin achète une Mercedes, lui, il n'est plus tranquille. Bien-aimé, être délivré de tout ça, c'est beau. Quand tu vois l'autre réussir, tu es dans la joie. Tu vois l'autre acheter une belle voiture, tu es dans la joie. C'est des états, bien-aimés, qui sont plus chers que de l'or. Parce qu'il y en a qui sont malheureux. Vous connaissez la publicité de Vegas, non? L'autre, il voit son voisin acheter une limousine de 15 mètres. Lui, il avait une limousine de 10 mètres. Lui aussi va chercher une limousine de 20 mètres. C'est des gens malheureux. Il y a un qui fait la fête dans un yacht. L'autre, il va chercher à faire la fête dans un avion. Et tout le temps, c'est comme ça. Ils sont malheureux. Mais toi, tu n'es même pas dans cet état-là. Quand tu vois l'autre acheter son avion, tu es heureux. Tu dis, ah, Seigneur, nous voyons que tu bénis des gens. Ça me fait du bien. Tu apprends qu'une telle personne a enfanté. Tu es heureux. Alors qu'il y a des gens, quand ils voient ça, ça les énerve. Parce qu'ils disent, mais moi, je n'ai pas d'enfant, Dieu donne aux autres. Et bien aimé, quand on est délivré de la jalousie, on est délivré de toutes ces choses-là, on est bien. C'est la plus grande délivrance qui soit. Et en plus, la foi. Il y en a qui tremblent d'aller voir l'état de leur compte. Mais toi, avec courage, tu regardes ton compte. Négatif. Mais moi, j'ai un compte au ciel. Tranquille. Et tu te promènes avec des gens, tu es heureux, mais ils ne savent pas que les situations bancaires sont compliquées. Mais parce que toi, tu comptes sur Dieu. Bien-aimé, délivré. Il est écrit dans Colossiens 1, 12 à 14, nous avons été délivrés
de la puissance des ténèbres. C'est extraordinaire, hein? Délivré de la puissance des ténèbres. Vous allez voir beaucoup de gens dire, oh, l'autre, c'est un grand magicien, il faut t'éloigner. Mais toi, tu passes à côté de lui, c'est le magicien qui fuit. Ah, bien-aimé, quel plaisir de voir que le magicien te fuit. Voilà. Celui qui fait peur à tout le monde, il te fuit, toi. On a été délivré des puissances des ténèbres. Amen. Je ne parle pas des pasteurs, hein. Je parle de tout celui qui est né de nouveau. Un enfant de Dieu. On ne touche pas un enfant de Dieu. Si Dieu ne le permet. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, comme il nous a été prêché vendredi, ne cherche pas à savoir quelle est la puissance de Satan, mais il cherche à s'attacher à son Dieu, à lui. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira au loin. Parce qu'il sait que si Dieu est avec lui, qui sera contre lui. Mais bien aimé, tout ça, c'est la délivrance que nous avons vécue. Nous sommes dans l'arche, même si nous vivons des difficultés, mais nous avons été délivrés des eaux. Nous avons été délivrés. Rien que l'envie de vivre. Il y en a qui n'ont pas ça. Ils ne pensent qu'à mourir, à mourir, à mourir, à mourir, parce qu'on l'a regardé mal, parce qu'elle a grossi. Il y en a qui sont dans ça. Et me disent, oh, 400 grammes de plus, ah, moi j'ai envie de mourir. Mais toi, tu regardes 1 kilo de plus, merci Seigneur. Voilà. Rien que cette attitude-là, c'est une grande richesse. Beaucoup n'ont plus envie de vivre. Il y en a qui regardent la montre. 33 ans, pas de mariage. Toi, tu regardes la montre. 37 ans, marié au Seigneur. Allez, on y va. On continue la vie, bien-aimé. Ça, c'est extraordinaire. Nous vivons dans l'arche, dans les ténèbres, mais nous avons la lumière de Dieu. Et nous sommes délivrés de tout ce qui est en train de noyer le monde. Ce qu'Éphésiens 2 appelle le train quotidien. Les hommes sont devenus esclaves du train quotidien. Métro, boulot, toto. Ils sont devenus esclaves de ça. Esclaves de l'argent. Ayant peur des crises économiques. Moi, j'ai dit aux gens, je ne perds aucun pays. Là où il y a la pauvreté, Dieu me nourrira. Dieu a nourri Élie par un corbeau. Par un corbeau. Mais les chrétiens ne réalisent pas de quoi ils sont délivrés. Je parle parfois des chrétiens qui sont dans des pays dits pauvres. Mais ils ne savent pas qu'eux, ils sont citoyens du ciel. Tout le temps, dira, mais l'Europe doit nous aider, l'Europe doit nous aider. Moi, je dis, frère, pourquoi vous humiliez Dieu comme ça en disant que l'Europe doit vous aider? C'est Dieu qui doit vous aider ou l'Europe? En Europe, il y a des SDF. En Europe, il y a des gens qui n'ont jamais quitté une ville pour aller dans une autre ville. C'est Dieu qui doit vous aider. Oh non, frère, c'est vous qui êtes en Europe qui devez nous aider. Oh là là, moi je dis, frère, vous humiliez Dieu. Ayez de l'honneur pour votre Dieu. Moi, j'ai de l'honneur pour Dieu. Je ne peux pas dire qu'un tel doit m'aider. Non. Ni une institution. Ni une organisation. J'ai une mission. Je sais que Dieu pourvoira cette mission-là. C'est cela, bien-aimé. Nous devons avoir l'honneur de Dieu. Dire, Dieu pourvoira. Dieu va faire. Et non pas être là à dire, mon cousin aurait dû m'aider, il est PDG quand même. Oh là là, toi tu es chrétien, tu comptes sur ton cousin PDG. Non, tu dois compter sur Dieu. Le frère là, il a beaucoup d'argent, mais il ne nous voit pas. Oh frère, lui c'est un humain. Compte sur Dieu. C'est Dieu qui pourvoira tes besoins. Amen. Il faut avoir le sens de l'honneur de Dieu. Il ne faut pas rabaisser Dieu. Donc nous avons été délivrés de toutes ces inquiétudes-là. Il y a des gens qui doivent fumer à tout prix. Mais toi, tu n'as même pas envie de ça. Il y a des gens qui passent 4 heures à chatter. Ils sont sur Internet. 4 heures. Ils ne connaissent pas les gens. Moi, quelqu'un m'a dit ça, moi je dis, mais pasteur, mais Dieu est grand. Parce que moi, je ne sens même pas, je ne sens même pas une envie de faire ça 5 minutes. Mais il y en a qui sont esclaves 4 heures. Je dis, mais Dieu nous a délivrés de beaucoup de choses. Je ne parle pas au pasteur Davis, je dis, pasteur, non. Parce que moi, je ne peux même pas penser, imaginer, prendre 15 minutes chercher un inconnu. Mais il y a des gens qui passent 4 heures du temps avec des inconnus. En Suède, en Hollande. Je dis, mais non, le Seigneur est bon. Il nous a délivrés de beaucoup de choses. Mais on ne s'en rend pas compte puisque l'arche est tellement dans l'inconfort qu'on oublie qu'on a été sauvé des eaux. L'inconfort de l'arche, l'inconfort de la vie de l'Église sur terre nous fait oublier qu'on nous a délivrés de beaucoup de choses graves, et notamment de la mort. N'oublions pas de quoi nous avons été délivrés. Nos regards sont fixés sur l'inconfort de la sainteté sur la terre, l'inconfort de la justice sur la terre, l'inconfort de l'amour sur la terre. Mais, bien-aimé, ça donne de la vie quand tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu te sens bien. Tu te sens bien. Mais quand tu commences à détester les gens, tu sais en toi que ce n'est pas bon. Il y a une lourdeur en toi. C'est beau, la délivrance du Seigneur. Mais l'arche continue sa route. L'Église, corps du Christ, continue sa route. Les eaux ne sont pas encore parties. C'est pourquoi Dieu nous conserve dans l'arche. Viendra un jour où tout cela finira. Et il nous sortira de l'arche de l'Église, corps du Christ, pour nous enlever avec lui au ciel. Et il va sécher nos larmes. Apocalypse 21:4. Il est écrit, il essuiera nos larmes, bien-aimés. Nous entrerons au ciel en pleurant parce que nous venons de loin. Dieu connaît la souffrance d'un chrétien, la souffrance de son Église sur la terre. Nous, en France, nous ne sommes peut-être pas tués, persécutés physiquement, comme on l'a vu mercredi avec Portes ouvertes. Vous avez vu le film d'un homme qui est persécuté, qui est laissé au soleil pendant 7 jours. Vous vous imaginez pendant 7 jours attaché au soleil. Tout ça parce qu'on veut lui imposer de signer qu'il ne lira plus la Bible. Il a dit, je ne signe pas. On lui a fait toutes sortes de sévices. Il a dit, je ne signe pas. Tout ça parce qu'on veut l'empêcher de lire la Bible. Nous, nous ne vivons pas ça, mais nous vivons d'autres formes de persécution. Pression familiale. Pression des chrétiens tièdes. Pression des chrétiens fréquence modérée. Tout ça, ce n'est pas facile de paraître comme un cheveu dans la soupe. Oh non, mais nous tous, on est chrétiens, toi tu te prends pour qui? Non, frère, c'est, nous suivons la Bible. Je ne me prends pour personne, je me prends pour un enfant de Dieu. Et je veux obéir à la Bible. Voilà. Maintenant, si toi qui dois défendre la Bible, ça commence à te gêner, là il y a un problème. Moi je continue ma route. Amen. C'est ça, bien-aimé. Nous vivons des pressions. C'est pourquoi on a dit aux gens, aux messieurs de Portes ouvertes, mais vous, il faut comprendre que nous aussi en France, on est persécutés. Mais ce n'est pas physiquement, on ne nous amène pas dans des prisons, mais il y a plusieurs formes de persécution. Il y a la soif de sécurité. C'est une pression où tu veux être en sécurité. Tu vas voir le banquier pour un crédit, mais non, tu n'as pas un salaire qu'il faut. Tu commences à te torturer pour trouver un salaire qui permettra que tu aies les crédits pour acheter la maison. Ce sont des persécutions, bien-aimés. Et c'est là que nous avons besoin de savoir que c'est l'inconfort de l'arche, mais nous sommes déjà délivrés du monde. Nous sommes là en attendant, frère. Rappelons-nous cela. Nous sommes là en attendant. Nous sommes dans l'arche. Ne cherchons pas que notre vie sur terre soit confortable à l'image du monde. Comprenons que jusqu'à ce que la porte de l'arche s'ouvre, c'était la galère. C'est la vérité, on ne nie pas cela. Il faut qu'on s'en rappelle pour qu'on comprenne qu'on est des passages. Aujourd'hui, nous perdons des frères que nous aimions. C'est les souffrances de la terre. Au ciel, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de séparation. Des soldats tombent, mais la guerre continue, bien-aimés. Ça continue. Nous sommes dans l'arche. Nous avons un temps passé. 14 mois passés dans l'arche. Viendra un jour, le Seigneur finira tout. Il essuiera nos larmes. Il n'y aura plus de cris. Acceptons cette vie-là. Dans l'arche. Parce que c'est seul dans l'arche que se trouve le salut. En dehors, c'est les eaux, les gens périssent. C'est dans l'arche où il y a cet inconfort-là que les gens étaient protégés. C'est dans le corps du Christ que nous sommes protégés. En dehors des fausses doctrines, aujourd'hui, il y a, je vois, vous savez le nombre de livres qui sortent sur les églises des maisons. Je dis, maman. Mais pourquoi Dieu a attendu tout ce temps-là pour commencer à sortir des livres sur des églises des maisons? Nous avons connu le temps où il y avait plusieurs livres qui sortaient sur comment faire une grande église, un grand bâtiment. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de livres qui sortent sur l'église des maisons. Les gens se promènent avec ça comme ça. Tu as déjà lu ça? Tu as déjà lu? Moi, j'ai dit, oh là là. Le voleur à la croix, il était dans quelle église? Dans une salle ou dans une maison? Bien-aimé. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Today, aujourd'hui même, tu seras avec moi où? Au paradis, bien-aimé. Est-ce qu'un bâtiment peut sauver? Jésus a dit, ce n'est pas dans un temple. Ce n'est pas à la montagne. Ce n'est pas dans un lieu. Le problème n'est pas le lieu, ce problème c'est en esprit et en vérité, bien-aimé. Jésus te rencontre à la prison, saisis Jésus, tu vas au ciel. Jésus te rencontre dans un marché, saisis Jésus et tu vas au ciel. Vous n'avez que une rivière, comme endroit, le bord d'une rivière pour vous réunir, réunissez-vous, priez le Seigneur. Vous avez une maison pour vous réunir, réunissez-vous, priez le Seigneur. Vous avez une salle pour vous réunir, réunissez-vous, priez le Seigneur. Ce qui importe, c'est que Jésus soit au milieu de vous. Matthieu 20, là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Dieu veut que vous vous réunissiez. C'est ça qu'il attend de nous, bien-aimés. Je vois des livres, je dis, mais ce n'est pas possible. C'est comme si quand tu es dans une maison, c'est là que tu es sauvé. Alors là, ce n'est plus Jésus le salut, ce n'est plus Jésus l'arche, c'est une maison qui devient le salut. Bien-aimés, réfléchissons. Ne soyons pas embarqués dans toutes sortes de complications. Restons simples, c'est Jésus-Christ qui est l'arche. En dehors de Jésus, en dehors de la Bible, tu es dans les eaux. Revenons à l'arche. Supportons la vie de l'Église. Depuis les apôtres, l'Église est en train d'être persécutée sur terre. Supportons cela. Bientôt vient la délivrance. Et pour achever, je veux dire que l'arche de Noé peut symboliser l'appel de chacun. Noé a mis 100 ans pour construire l'arche. Parfois, ça peut prendre du temps. Acceptons que ça prenne du temps, mais faire les choses solides. Ne cherchons pas à faire les choses à la vitesse humaine, à la vitesse du moment. Faisons les choses à la vitesse de Dieu. Ne soyons pas pressés de voir des résultats. Ne soyons pas pressés. Soyons simples, obéissant chaque jour à la voix de Dieu. Bâtissons avec des matériaux solides. Vous vous imaginez, si Noé avait bâti l'arche en 5 ans, certainement, ça serait des matériaux légers. Et les eaux allaient les faire chavirer l'arche. Les eaux allaient casser l'arche. Mais Noé a mis 100 ans pour construire l'arche, parce qu'il fallait que ça tienne. Bien-aimé, dans l'appel que Dieu vous a donné, laissez le temps de Dieu, parce qu'il faut que ça tienne jusqu'au bout. Laissez Dieu vous façonner, Dieu vous travailler, laissez Dieu œuvrer. Ne cherchez pas, bien-aimé, à plaire aux humains, à les satisfaire par rapport à leurs attentes, mais plaisez au Dieu de la Bible. C'est lui qu'il faut suivre. Et il faut construire ton appel en fonction de ce qui est écrit. Et ne pas imposer à Dieu un rythme, mais suivre le rythme de Dieu. Ça veut mettre 100 ans à construire quelque chose. Et vous avez tout cela pour sauver combien d'humains? 8.
tout un édifice comme ça, qui dépasse tous les bateaux d'aujourd'hui, pour sauver combien de personnes? 8 personnes. Aujourd'hui, les gens cherchent toujours le nombre, le nombre, le nombre, le nombre. Cherchent à faire une belle œuvre. Voilà. Dieu ne te demande pas de chercher le nombre, il te demande de faire une belle œuvre pour lui. Il ne te demande pas d'impressionner les gens. Vous savez, pendant que nous vivons dans l'arche comme ça, pendant que nous construisons, tu construis l'œuvre de Dieu que Dieu a mis dans ton cœur, quel que soit que tu sois dans un groupe ou pas, pendant que ça se construit, les autres boivent et se marient. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 24. Les gens boivent, ils se marient, ils font des fêtes et ils font des choses. Mais nous, bien-aimés, nous nous marions, mais c'est comme quelque chose que nous faisons parce que nous sommes sur la terre. Nous mangeons parce que nous devons retrouver des forces pour servir l'Éternel. Vous savez, depuis que Dieu a dit à Noé de construire l'arche, Noé n'a vécu que pour la construction de l'arche. Parce qu'il a commencé à 500 ans, à 600 ans, la pluie a commencé. Donc, les 100 ans qu'il a vécu, c'était que pour construire l'arche. Le jour où Dieu t'a appelé, bien-aimé, ta vie maintenant, c'est pourquoi? Pour construire l'arche. L'arche de ton appel, l'arche de ta communion avec Dieu. Tu ne vis que pour ça. Que personne ne nous trompe, bien-aimés, en nous faisant paraître le travail, la nourriture comme des choses, ou bien les maisons comme des objectifs. C'est faux. Depuis que Christ nous a rencontrés, nous devons vivre que pour lui. Maintenant, il faut manger, on travaille. Pour manger, pour avoir la force, pour vivre pour qui? Pour Christ. Il faut qu'on ait une maison. Pourquoi? Pour vivre pour qui? Pour Christ. Il ne faut pas qu'on ait une maison parce que tout le monde a une maison. Il ne faut pas qu'on ait une maison parce que dans la vie, il faut réussir. Non, nous avons déjà réussi parce que Christ a réussi à notre place. Nous voulons une maison parce qu'on peut prier dans la maison. On peut éduquer nos enfants, les protéger pour qu'ils servent qui? Christ. Paul a dit, soit que nous vivions, soit que nous mourions, c'est pour Christ. Et je clôture avec Actes des Apôtres, chapitre 20, 24. Je l'ai dit, ce sujet est tellement important, beau, que ça demande plusieurs séances. Mais je voulais partager un peu de cela avec nous tous. Actes des Apôtres, chapitre 20, au verset 24. Paul dit ceci, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Amen. Bien-aimés, il faut penser tout le temps à ça. Depuis que nous avons reçu Christ, moi, dans mon langage bien-aimé, je dis, chaque âme sera disputée au diable. C'est ça l'attitude des chrétiens, on dit. Chaque humain, on va le disputer au diable jusqu'à l'arracher. Nous ne vivons que pour ça. Chaque humain. Quand j'étais au voyage au Congo, je suis parti parler dans les chaînes. Quand tu parles à la télévision, tu parles à des milliers de personnes. Mais à chaque fois que quelqu'un appelait pour prendre rendez-vous avec moi, même si j'étais très occupé, j'acceptais le rendez-vous. Parce que je me disais peut-être que Dieu veut lui parler, Dieu veut faire de lui un serviteur. Donc je vais disputer cette âme-là jusqu'au bout. Parler en même temps à 10 000 personnes et accorder le même temps à une personne. Voilà ce que Dieu attend de nous. Chaque âme doit être disputée. Comme si c'était 1 000 personnes. Parce que nous ne vivons plus que pour ça. Je ne fais plus aucun cas de ma vie. Maintenant, notre vie, c'est annoncer la bonne nouvelle. Contribuer à cela, peut-être en étant électricien, mais pour favoriser l'évangélisation. Mécanicien pour favoriser l'évangélisation. Tout est fait pour cela. Pour glorifier Dieu et annoncer la bonne nouvelle. Amen. C'est ça que Dieu nous demande aujourd'hui. Vivons dans cet objectif-là. Souvenons-nous de l'arche. Notre appel, c'est comme une arche. La vie de l'Église, c'est comme une arche. Et ce que Jésus a accompli, c'est lui l'arche véritable. Les deux autres symboles que j'ai donnés, c'est pour nous aider à comprendre des choses, mais l'explication biblique, c'est Jésus qui est l'arche.
Mais les deux autres symboles, c'est pour nous aider à comprendre et à marcher dans cette logique-là de Noé qui, pendant 100 ans, bâtit quelque chose. Et après, il a eu 14 mois de galère, sachant que la terre sèche vient. Pendant 100 ans, bâtis l'œuvre de Dieu dans ta vie. Prends du temps. Ne laisse pas, ne cherche pas la vitesse humaine. J'aime donner l'image de l'arbre. L'arbre, avant de donner du fruit, ça prend son temps. Voilà. Tu plantes un pommier, 3-4 ans après, ça donne du fruit. Mais il existait déjà un arbre. Mais il supporte pendant un temps qu'on se moque de lui. Mais il sait que le temps de maturation viendra. Suivons l'exemple même de la nature. Nous verrons que nous serons heureux avec le Seigneur. Et il y aura un temps où nous dirons, on a semé avec cri, avec pleurs, mais nous moissonnons avec allégresse. Que ce soit ton appel, que ce soit la vie de l'Église, il y a un temps où nous glorifierons le Seigneur. Que son nom soit béni. Prions notre Dieu qui nous aide à rester fidèles, accepter la vie en attendant de l'Église sur terre et à vivre que pour annoncer la bonne nouvelle. Que pour contribuer à annoncer la bonne nouvelle. Tout le monde ne va pas parler forcément, mais tout le monde peut y contribuer. Seigneur, nous prions que tu nous aides à saisir cette image de l'arche. À saisir cette image de l'arche pour patiemment construire notre vie avec toi. Car il a fallu de la patience, 100 ans pour construire l'arche, Seigneur. Nous voulons plus que cette patience-là pour construire ton œuvre sur la terre, l'Église, corps du Christ, et pour construire l'appel de chacun, Seigneur. Nous voulons être patients afin de bâtir les choses sur du matériel solide. Ô Éternel, au nom de Jésus-Christ, donne-nous cette patience, cette détermination. Ô Seigneur, que nous ne fassions pas les choses avec précipitation, mais avec assurance et fidélité à la parole. Merci d'agir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que nous réalisions de combien de maux nous avons été délivrés en entrant dans le corps du Christ. En entrant dans cette arche qu'est le corps du Christ, nous avons été délivrés, Seigneur, de beaucoup de maux dont on ne se rappelle même pas. Mais en observant les païens, nous pouvons nous en rendre compte, Seigneur. Et que malgré l'inconfort de la vie de l'Église sur terre, nous puissions, Seigneur, patiemment attendre le temps de la délivrance. Que ce soit notre mort, que ce soit ton retour, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous à vivre en attendant. Pas en vivre comme si notre objectif était sur terre, Seigneur. Nous venons prier, Seigneur, que tu nous aides à réaliser combien Jésus est pour nous la véritable arche qui nous protège de tous les maux extérieurs. Qu'à chaque instant que nous sommes en difficulté, que nous prions pour refuge Jésus, qui est sa parole même, par son esprit, que nous puissions demeurer en lui. Comme il est écrit, demeurez en moi. À toi la gloire, Papa, de nous avoir parlé encore aujourd'hui par ton esprit. Aide-nous à pratiquer et que tout soit fait pour ta gloire dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni.